Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, retour aux origines de l'homme à la rencontre de Lucie et des premiers hominidés découverts en Éthiopie dans les années 70. La biologiste, géologue et palynologue Raymonde Bonnefille revient sur cette expédition auquel elle a participé, sur les pas de Lucie. C'est le titre de son livre publié chez Odile Jacob. Elle sera en discussion avec la philosophe des sciences Claudine Cohen qui vient de participer à l'ouvrage collectif Variations sur l'histoire de l'humanité. Quelles nouvelles de la préhistoire? Histoire, on en parle à 12h55. Mais avant cela, rencontre avec le dessinateur François Bouc qui ressort Face de Lune avec Alejandro Jodorowsky au scénario pour un album publié initialement en 1991 et qui n'a pas pris une ride. On retrouve le goût des auteurs pour le réalisme et le grotesque, la politique, l'écologie, la spiritualité font le sel de ce récit post-apocalyptique qui réunit deux des plus grands noms de la bande dessinée.
Grande Table, Raphaël Bourgois.
Dessinateur de bande dessinée, c'est créer des langages à partir des formes. C'est ainsi que Bouc définit son métier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en la matière, notre invité est polyglotte. De Jérôme Mouchereau à Bouncer ou Little Tulip, en passant par le dessin de presse, les pages écologie de Charlie Hebdo, les tweets de Trump, le procès de Dominique Strauss-Kahn, dit du Carlton de Lille dans les pages du Monde, Bouc exerce son trait réaliste, mais toujours à la limite du grotesque, sur tous les formats offerts par la bande dessinée. Il a d'ailleurs reçu pour ça en 1998, 20 ans déjà, le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Bonjour Bouc.
Ouais, je l'avais oublié.
Vous l'aviez oublié ce Grand Prix?
Non, je l'avais pas oublié, bien sûr.
Bonjour. Juste, j'avais pas prévu de vous poser la question et de commencer par le dessin de presse, mais vraiment cette idée de gilet jaune déposé comme marque par Florian Philippot, je me dis, ça fera un dessin de presse exceptionnel.
Oui, alors j'ai pas encore médité sur la question, là je viens de l'apprendre tout à l'heure, mais effectivement, on peut se dire, mais est-ce que ça va se limiter au gilet? Est-ce que ça va pas être aussi des pantoufles? Est-ce que ça va pas être aussi une casquette?
Et pourquoi pas la couleur jaune qui lui irait bien?
Mais bien sûr, bien sûr.
Vous venez de republier, Bouc, le premier tome de Face de Lune, votre première collaboration donc avec Alejandro Jodorowsky, l'un des papes, peut-être devrait-on dire le technopère de la bande dessinée en France, avant des séries, la série que vous aviez dessinée avec lui pour le cowboy Bouncer. C'est à l'origine une série publiée dans l'excellent magazine de Casterman À Suivre, aujourd'hui disparu malheureusement, l'histoire de l'apparition messianique d'un personnage sans visage, capable de dompter un déluge, une vague, un tsunami qui vient s'échouer, laver le monde de ses péchés, ou en tout cas c'est comme ça que les conducteurs,
c'est une espèce de dictateur.
Voilà, interprète ce déluge permanent. C'est une dystopie comme on en trouve beaucoup en bande dessinée. Quelle en est l'origine?
La première origine, c'est de se dire, quand on s'est rencontrés, Alexandro et moi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est toujours une de mes préoccupations, j'avais été alerté sur ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée, je découvrais ça, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et des vieux messieurs, il y avait un vieux prêtre un vieux chanoine du sud-ouest de la France, qui avait fait toute sa vie à parcourir la géométrie et qui m'avait instruit sur cette donnée, une sorte de pythagoricien. Il était marqué, quand on arrivait dans sa toute petite chambre, parce qu'il était à la retraite, il était vieux, il avait 80 ans quand je l'ai rencontré, dans sa toute petite chambre, il y avait des diagrammes partout sur les murs, et il était marqué « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre », en référence à Platon. Je me suis intéressé à savoir comment s'était construit ces trucs-là. Et quand on s'est rencontrés, Alexandro et moi, il me dit, mais à quoi tu t'intéresses actuellement? Alors je lui parle de ça. Il me dit, ah ouais, ça serait bien si on faisait une histoire qui raconte la construction ou la reconstruction d'une cathédrale. Donc on avait évoqué, on se disait, mais où est-ce que ça pourrait être, cette cathédrale? À Las Vegas? Ça pourrait être sur une autre planète? Ça pourrait être... Et puis finalement, on s'est décidé de faire se passer ça sur une île qui est totalement inconnue, qui pourrait ressembler à des îles irlandaises un peu, dans des climats plutôt interlopes, hein, et qui Et lui, il me dit, il y aurait une vague énorme qui régulièrement dévaste l'île et qui fasse que l'île est remise à zéro à chaque fois. Donc on est parti là-dessus. Puis alors bien sûr, comme il est très provocateur, Alexandro, et que j'avais fait beaucoup de personnages à l'époque qui étaient pleins de traits partout parce que j'aimais bien les personnages un peu grotesques et puis d'accentuer sur la caricature, il m'avait dit « Est-ce que tu serais capable de faire un personnage qui n'a pas de visage, qui n'a aucun trait ?» Et là, d'un seul coup, bien sûr, j'étais provoqué dans une direction où j'étais jamais allé.
La face de lune est née. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur l'absence de traits du visage de ce personnage. Mais restons un tout petit peu sur cette idée de cathédrale et de géométrie du sacré, si vous le voulez bien, Bouc. Vous êtes rencontré, je crois, avec Jodorowsky à Amiens, justement. Et c'est cette cathédrale d'Amiens qui vous a inspiré pour cet album.
Oui, oui, c'était très rigolo, d'ailleurs, parce que les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, à plusieurs reprises, Alexandro travaillait sur un film à l'époque, il était en plein montage, et donc il avait pris rendez-vous avec moi une première fois. Alors comme j'habitais Lille, il fallait que je me déplace, et à l'époque il n'y avait pas encore le TGV entre Lille et Paris, et donc je prenais mon billet à l'avance, je savais que j'avais 3 heures de route pour y aller, et donc je prenais mon billet, je devais rencontrer Alexandro que je ne connaissais pas, il y avait un intermédiaire entre nous. Et à chaque fois, à la veille de mon départ, il annulait en reconduisant à un petit peu plus tard. Et ça, ça s'est produit plusieurs fois. Et donc, au bout de la troisième fois, à l'époque, donc un des disciples du prêtre dont je vous parlais là, du chanoine Bétous, il s'appelait, donc était un type qui était sourcier en même temps. Et il m'apprenait à trouver des sources. Et donc régulièrement, il pouvait m'appeler 5-6 fois par jour pour me donner des instructions, des trucs. Et à ce moment-là, il m'appelle, je lui explique, je lui dis « Mais Daniel, il y a quelqu'un qui veut me rencontrer ou avec qui j'ai rendez-vous, mais est-ce que je fais bien d'y aller ?» Parce que ça fait quand même 3 fois qu'il remet les rendez-vous, donc peut-être que il regarde avec ses trucs de sourcier. Il me rappelle quelques minutes plus tard et puis il me dit « Ouais, tu peux aller à ce rendez-vous, ça peut être bien. Mais attention, fais la même chose que nous, les vieux, nous faisions quand nous avions un contrat à signer avec quelqu'un. On se donnait toujours rendez-vous à mi-chemin, de façon à ce que, si le contrat ne se faisait pas, aucun des deux pouvait se sentir
lésé par
le déplacement. Et donc, je lui dis, ok, on va faire ça. Donc, j'appelle l'intermédiaire et je lui dis, voilà, on va se retrouver à Amiens. Et on se retrouve à Amiens, effectivement, on se retrouve au pied de la cathédrale, il y avait un petit resto où on est allé, puis on a évoqué tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Et en même temps, il y avait cette cathédrale qui était juste à côté, qui est magnifique, que j'ai d'ailleurs beaucoup étudié depuis. Et donc on s'est dit, ben, on va faire ça. Qui c'est qui aujourd'hui fabrique une cathédrale? Eh ben nous, on peut essayer de la faire en papier. On va la faire avec nos maigres moyens à nous, donc le dessin et l'invention.
Et c'est comme album, ça que c'est né. Cet album, ce premier tome de Face de Lune, se termine d'ailleurs par une cathédrale, la reconstruction d'une cathédrale par la vague qui submerge régulièrement cette île, justement, Bouc. Et donc, cette vague qui submerge, c'est aussi pour vous un formidable défi technique, parce que quelle architecture peut répondre à ce type de phénomène physique?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'était une idée formidable d'Alexandro, qui était de dire, ben, il reste plus d'une cathédrale que son plan au sol. Il n'y a plus que des moignons de colonnes, de piliers. Et donc, cette vague, et qui est une vague catastrophique, parce qu'à l'époque aussi, on ne parlait pas autant des tsunamis qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tsunamis pratiquement tous les ans, ou même plusieurs fois par an, on a des tsunamis. À l'époque, un tsunami, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, ce tsunami arrive sur cette île, et bien sûr, il dévaste tout, sauf cette cathédrale qui est reconstruite. C'est-à-dire que les colonnes, qui étaient des moignons de colonnes, finissent par devenir des colonnes d'eau. Et tout l'espace intérieur de cette cathédrale est reconstruit par cette vague énorme qui vient à submerger à la fois la cathédrale et l'île.
On retrouve là la dimension ésotérique, magique, celle de la spiritualité qui s'oppose dans cet album au totalitarisme politique.
Voilà, c'est une espèce de... cette vague, c'est une espèce d'évocation de l'irrationnel et qui arrive... et qui reconstituent des éléments, comme on pourrait dire, et qui sont des éléments idéaux, qui sont des éléments d'inspiration de toutes les personnes qui constituent la population de cette île, sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Et donc petit à petit, ce personnage bizarre, sans visage, va ramener ces gens, un petit peu comme si, c'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui, ce personnage sans visage, c'est un peu comme le principe de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain sans qu'il soit conditionné par une individualité. La figuration, il y a plus forte raison quand on est dessinateur, on s'accentue le travail sur la ressemblance à telle ou telle individualité. Là, il n'y a aucune individualité puisque, en fait, c'est le principe. C'est un être humain avec deux bras, deux jambes, et une tête, des yeux, et c'est tout. Il n'y a pas d'individualisation. Et donc, tout le monde peut se reconnaître en lui, et de la même manière aussi, il a une vertu particulière, ce personnage, c'est qu'il permet à ceux qu'il regarde de se refléter à travers lui, comme s'il était un miroir idéal. Hein. Et donc, cette espèce de principe de l'être humain renvoie chaque individu qu'il côtoie au principe de lui-même, on va dire.
Alors on l'a dit, c'est un album Face de Lune qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Cette idée de fin du monde, elle n'est évidemment pas nouvelle. Elle est filée par Alejandro Jodorowsky depuis un certain temps. Il en parlait encore en 2013 dans une vidéo qu'on peut trouver sur Internet.
J'ai besoin de personnages héroïques qui commencent limités, mais après développent sa conscience et arrivent à être des êtres sublimes. J'ai un profond respect pour l'être humain. Le monde dans ce moment est dans tel état de catastrophe. On a tellement perdu la foi dans le monde. On parle tellement de la fin du monde. Que chaque jeune personne, c'est comme un messias. Parce qu'il veut changer le monde. Il ne sait pas comment commencer à le changer. Mais je pense que dans le cœur de chaque personne, un peu conscient, il a le désir de changer ce monde. Parce que ce monde est périmé déjà. On ne peut plus continuer à vivre dans un monde pareil.
On ne peut plus continuer à vivre dans un monde pareil, nous dit Jodorowsky. On peut continuer en lisant votre album et vos albums, Bouk et Jodorowsky, notamment le dernier dont on parle aujourd'hui dans la grande table. Cette dimension post-apocalyptique et d'une apocalypse écologique aussi, c'est quelque chose qui est présent dans la bande dessinée, on le dit pas assez souvent, depuis très longtemps. On peut penser par exemple à un Franquin qui avait une vraie conscience écologique et qui l'a porté pendant longtemps, notamment dans les pages de Pilote. Et c'est vrai qu'on retrouve dans cet album qui a été dessiné, rappelons-le, en 1991, un certain nombre de thèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Il faut dire, vous, Bouk, que vous dessinez désormais dans Charlie Hebdo des pages sur l'écologie.
Oui, bien sûr, mais ce qui est étonnant, c'est que l'écologie est née avec René Dumont. Les premières fois où on a entendu parler de l'écologie, en tout cas l'écologie politique, c'était avec René Dumont, et ça date. Et à cette époque-là, il alertait déjà sur l'importance du comportement écologique. Et ce qui est étonnant, c'est de s'apercevoir que des tout petits phénomènes n'ont jamais un grand écho. Il faut que ça soit une catastrophe pour qu'on arrive à... Là, on est en train de commencer à se mobiliser pour le dérèglement climatique. Il commence à y avoir une pétition là sur Internet qui fait des millions d'adeptes. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça a été dit il y a des dizaines d'années maintenant. Et la bande dessinée, son intérêt aussi, c'est qu'elle peut mettre en forme, elle peut incarner comme une sorte de prémonition ce qui va arriver beaucoup plus tard, puisque là on peut dessiner les choses, on peut leur donner une apparence de réalité grâce au dessin. Et le thème a été bien sûr travaillé par beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, et aussi par Cabu était un ardent défenseur aussi, Reiser pareil, et donc dans les années 68, donc ça date d'il y a très longtemps. Et cette manière de pouvoir mettre en forme est encore plus intéressante dans la mesure où elle permet de figurer ce qui pourrait nous arriver. Et donc, quand on a fait ça dans les années 90, on se disait, voilà, ça c'est les choses qui pourraient arriver. Et quand je vois la fréquence des tsunamis dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable, nous on faisait un tsunami. À cette époque-là, c'était très exotique de voir un tsunami dans une bande dessinée. Il y avait des tas de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un tsunami. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un tsunami.
Et autour de ce tsunami, vous construisez aussi des paysages. C'est-à-dire qu'il y a l'importance de l'histoire. On va peut-être y revenir un tout petit peu également, si vous le voulez bien, Bouc. Mais j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du lieu, du paysage que ça implique, finalement, cette histoire de vague qui revient régulièrement. Et notamment, j'ai pu remarquer que beaucoup des cases étaient en cinémascope, un peu à l'horizontale, comme un storyboard de la catastrophe. Ça donne beaucoup de rythme aussi, évidemment, à la narration. Comment est-ce que vous avez mise en forme, en quelque sorte, cette vague, cette horizontalité, et est-ce que ça implique sur la description et le dessin des paysages?
Le cinémascope est très intéressant dans la bande dessinée, en tout cas, les cases qui vont d'un bout d'une page à l'autre, parce qu'en fait, elles donnent une impression encore plus grande de vastitude.
Vous l'utilisez aussi beaucoup dans Bonesoeur?
Oui, c'est ça. Aussitôt que l'espace est omniprésent et même un acteur fondamental de l'histoire, à ce moment-là, il faut utiliser, enfin en tout cas, j'estime que il faut que j'utilise des cases qui sont de pleine page, d'un bout à l'autre de la page. Parce qu'en fait, ils donnent une envergure qui va bien au-delà de la page. L'utilisation dans ce cadre narratif, c'est bien sûr pour créer des espaces les plus vastes possibles, de façon à ce que le lecteur puisse se retrouver dans un espace aussi vaste, en tout cas dans des espaces aussi vastes qu'il connaît. Je l'utilise vraiment très volontiers. Et en plus de ça, bien sûr, c'est plus justifié encore dans la mesure où cette île se trouve sur une mer, un peu comme si cette île c'était une part de rationalité qui est régulièrement dévastée par cette vague irrationnelle qui vient tout mettre à bas. Et ce qui reste sur cette île, c'est uniquement une ville de blocos, parce que c'est le seul moyen de se protéger d'une vague. Et donc, bien sûr, l'île de blocos, une ville de blocos renvoie à une sorte de totalitarisme. C'est une sorte de totalitarisme architectural, guerrier, hein, qui renvoie à nos conceptions des blocos suite à la dernière guerre mondiale. Donc tout ça se forme un tout cohérent avec des dictateurs qui sont ceux qui essayent, tant bien que mal, de maintenir un ordre dans ce désordre permanent qui est lié à cette vague irrationnelle. Et donc qui a servi par là même aussi la population. Cette population, elle est prisonnière à la fois de son architecture, elle est prisonnière de son idéologie, elle est prisonnière de ses dictateurs, et une autre idéologie qui est celle du tout technologique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de micro-sociétés qui sont les espèces de technopères, on pourrait dire, des technopères.
En référence à Jodorowsky, oui.
Et qui sont les scientifiques et qui veulent finalement produire un culte à la science. À la science et surtout à la technologie, ce qui peut se produire à partir de la science. Et donc ils veulent que petit à petit, en fait, on enterre la spiritualité dans une forme, on pourrait dire, de blocos mental, qui est celui de la technologie. Et un peu ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs. Hein.
Et c'est ça que va venir faire éclater Face de Lune.
Thank you.
La cathédrale engloutie de Debussy, jouée ici par Hélène Grimaud. C'est évidemment une référence à votre cathédrale engloutie, François Bouc, dans cet album Face de Lune, qui vient d'être réédité aux éditions Le Lombard. En tout cas, le premier tome vient d'être réédité. Un second tome suivra pour ceux qui veulent la suite de l'histoire. Et justement, une histoire qui était parue initialement dans la revue À Suivre, une des grandes revues de la bande dessinée. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui, pour ne pas dire plus du tout. Et donc, il y a cette forme aussi de la série, de l'urgence, une forme de narration assez particulière qui prend, d'un point de vue scénaristique, qui prend la forme justement d'une fuite, une fuite perpétuelle.
Exactement. Et c'est comme ça que Alexandro voulait conduire cette série. Il voulait que ça soit comme une espèce de course en avant. Les personnages sont dans une espèce d'urgence de reconstruire, de rétablir un temple. Un temple, même si le personnage qui est, on pourrait dire, le fédérateur de tout ça, est un personnage qui le fait sans, comme si c'était d'un naturel absolu. Et donc, toute l'histoire est faite comme si les personnages étaient en poursuite continuelle. Des tas de gens veulent s'emparer de ce personnage bizarre et qui leur échappe en permanence.
Et pour vous, le dessinateur, ça implique quoi ?
Une dynamique. De mettre toujours la pression, je dirais, narrative, toujours faire en sorte que le lecteur soit pris en haleine de façon à ce qu'il aille de case en case et qu'il puisse s'interrompre.
Et puis la fuite, c'est un motif géométrique. Le point de fuite, vous aviez signé un album, oui. Je crois que c'est un de vos premiers albums en 86, point de fuite pour les braves.
Le point de fuite dans la géométrie, c'est un truc fabuleux. La perspective, c'est quelque chose qui demande à être éclairé, parce que la plupart du temps, on voit ça comme comme les coordonnées de l'organisation d'une image. Mais en fait, le point de fuite, c'est une projection de celui qui regarde, soit sur l'horizon, ou soit s'il regarde le ciel, à l'infini. Et donc, il décrit le monde entre lui ici qui regarde, et sa projection de lui-même à l'infini, ou sur la ligne d'horizon. En fait, entre ces deux points, qui sont les deux éléments de lui-même, un peu comme si, entre ces deux points qui formeraient une ellipse, il y a toute la description du monde qu'il se fait à lui-même. Et donc, de ce point de vue-là, quand on introduit un point de fuite dans une image, on introduit le lecteur directement dans l'image. C'est comme si on l'installait à un endroit en lui disant, voilà, c'est l'endroit idéal pour que tu puisses voir tout ce qui va se passer. Et le point de fuite sera son homologue projeté à l'intérieur de l'image. C'est comme ça qu'on pourrait le... Je ne sais pas si je suis très clair.
Si, vous êtes parfaitement clair, François Bouc, c'est tout à fait clair sur cette petite leçon sur le point de fuite et la géométrie et son importance dans la bande dessinée. Et je me disais, en lisant, il y a une forme de, non pas de contradiction ou d'opposition, mais entre cette importance du point de fuite, de l'horizontalité dont on a parlé des cases, et cette forme, tout simplement, de la face de lune, c'est-à-dire la rondeur des bâtiments aussi, des blocos, qui, évidemment, ne peuvent pas avoir trop d'angle pour bien résister à la vague.
Oui, c'est ça qui est intéressant aussi quand on commence une histoire comme celle-là, c'est que petit à petit, l'histoire, les premières coordonnées de l'histoire vont générer tout le reste de l'histoire. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit, il y a une vague qui va dévaster une île, au départ, Alexandro me dit, comme ville, je vois une sorte de ville faite de bouts de zinc, de résidus de maisons. Donc comme si les habitants à chaque fois reconstituaient la maison. Mais une vague comme celle-là, elle dévaste tout. Elle tue tout le monde et elle avale tout. Il n'y a plus aucune tôle, il n'y a plus rien. Alors soit on devient troglodyte ou terrier, ou soit on construit quelque chose de très dur. Et donc, à ce moment-là, se posent des problèmes architecturaux. On se dit, alors j'en ai discuté avec des amis architectes qui me disaient, une vague comme ça, il faut imaginer que une vague comme ça se dévastant une île, ça ça va provoquer quoi ? Ça va provoquer des tympans qui sautent, parce que la pression est telle sur les personnages que ça va générer tout ça. Donc, il y a des choses qu'on peut pas...
Et donc, tout ça se décline dans le dessin, dans l'invention des paysages, et aussi peut-être sur les personnages tels que vous les dessinez. On connaît votre trait, François Bou, qui est à la fois très très précis et parfois à la limite du grotesque. J'ai une dernière question, puisqu'on arrive au bout de cet entretien. Malheureusement, on a parlé finalement que de cet album. On aurait pu parler aussi de Bouncer, qui est ressorti en intégrale, et parler de Little Tulip, puisque votre personnage que vous avez imaginé avec Charine, qui est un autre scénariste avec qui vous avez beaucoup travaillé, hein, la femme du magicien, Bouche du diable. Vous allez revenir avec un nouvel album, c'est ça, sur Little Tulip. Little Tulip, qui est un personnage qui est un dessinateur, justement, une sorte de double de vous-même, sauf que lui, il apprend le dessin en tatouant la peau des prisonniers d'un goulag quand il est jeune. Et c'est une sorte de fantasme du pouvoir absolu du dessin.
Oui, oui, mais moi j'ai énormément de respect et de vénération pour le dessin. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, n'importe qui commence à vivre et à vivre en communauté avec les autres en dessinant et en vérifiant si ce qu'il a dessiné auprès des autres, c'est bien une vache, ça. Et il vérifie auprès de papa ou maman. Et donc, le dessin est un moyen, surtout le dessin réaliste, est un moyen d'explorer le monde et de l'explorer dans des détails qui sont infinis, comme aussi dans ce qu'il peut avoir de plus vaste, un peu comme dans cette histoire-là. C'est ce que je voulais raconter avec Little Tulip. Et donc dans le prochain, qui va être une sorte de suite à Little Tulip sans en être une, puisque ça se passe une quinzaine d'années plus tard, et qui va s'appeler New York Cannibal.
On attend l'album, sera publié
chez Le Lombard, et ça sera pour peut-être la fin d'année, si là j'ai commencé, mais j'ai encore pas mal de pages.
Vous avez encore du travail. Alors, on connaît l'urgence du dessinateur, c'est aussi un motif récurrent toujours. Évidemment, quand on connaît la bande dessinée. Merci beaucoup François Bou, je rappelle Face de Lune avec Alejandro Jodorowsky, c'est justement aux éditions Le Lombard. Merci d'être passé par la grande
table. Merci à vous aussi.